Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est la cérémonie républicaine du jour en France. L'entrée au Panthéon de la sixième femme à laquelle la patrie manifeste sa reconnaissance, pour reprendre l'expression inscrite au fronton du monument. Joséphine Baker, l'artiste, chanteuse, danseuse, meneuse de revue. Joséphine Baker, l'icône noire, engagée contre la ségrégation, la discrimination et le racisme, pour la justice et toute liberté. Joséphine Baker, la résistante à l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Une femme aux mille vies, issue d'une famille pauvre du sud des États-Unis qui chantait qu'elle avait deux amours, son pays et Paris. Une icône mondiale que nous raconte un spectacle à son image, pétillant et plein d'humour, plein d'énergie et d'insolence, qui mêle le chant, la danse, l'engagement, la comédie. Joséphine B. de Xavier Duringer avec Clarisse Kaplan et Thomas Armand. C'est au Théâtre de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris, jusqu'au 2 janvier 2022. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Clarisse Kaplan.
Bonjour.
Bonjour Xavier Duringer.
Bonjour.
Depuis quand vous a-t-on dit, Clarisse Kaplan, que vous ressembliez tant à Joséphine Baker ?
La première fois qu'on me l'a dit, j'étais toute petite, c'était ma grand-mère. On ne m'en avait pas reparlé depuis. Et puis un jour, j'ai rencontré Xavier Duringer. Et assez rapidement, il m'a trouvé pas mal de ressemblances avec elle. Et c'est comme ça que le projet est né.
Oui, ça vous a sauté aux yeux, ça, Xavier Duringer.
Oui, il y avait quelque chose d'étonnant dans son visage, dans ses grands yeux, ses grandes dents, son petit menton, et surtout ce corps qui pouvait exprimer en fait la folie que pouvait avoir Joséphine Baker. C'est-à-dire, c'est pas seulement de danser. C'est-à-dire que Joséphine, quand elle dansait, elle racontait sa vie. Donc c'est pas seulement de la danse, c'est une forme d'expressivité, d'explosion. Comme ça, de joie et d'enthousiasme.
Mais quand parlez de ressemblance, tous les deux, vous parlez uniquement de ressemblance physique ou bien la ressemblance va au-delà, justement,
je pense que
visage et du corps de Clarisse Kaplan ?
La ressemblance va bien au-delà. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est les journalistes qui parlent d'incarnation, d'âme ressuscitée. Enfin, il y a des mots très, très forts.
Extrêmement troublant. Hein. Ouais, dès qu'on entre dans la salle, on est vraiment saisi.
Voilà. Et donc, ça, c'est très troublant parce que c'est aussi le côté des facéties. Mais il faut avoir justement le porter à l'intérieur de soi. Ça ne se joue pas, ça. C'est vraiment le fait de pouvoir toujours à la fois danser, s'exprimer au travers de la danse et en même temps avec beaucoup de fantaisie, de clownerie et en même temps, de l'autre côté, en parallèle, un sérieux formidable et un combat contre, j'allais dire, toutes les différences qui étaient absolument extraordinaires.
Et c'est cette ressemblance, Xavier Duringer, qui vous a donné envie d'écrire cette pièce. On peut dire que le texte, vous l'avez écrit pour elle, pour Clarisse Kaplan ?
Ah, je l'ai écrit pour Clarisse, oui, il y a environ 3 ans. Et on a commencé à répéter doucement, à écrire cette pièce de théâtre et puis à faire rentrer très rapidement Florence Lavie, notre chorégraphe. Et puis bien sûr Thomas Armand, que j'ai repéré aussi dans un cours d'art dramatique. Parce qu'il faut savoir que c'est leur premier spectacle à tous les deux.
Ils sont deux sur scène. Hein, Thomas Armand fait une foule de personnages, on va évidemment en parler, mais c'est vraiment, effectivement, un vrai duo sur scène.
Voilà, et donc on ne pouvait pas évoquer et rendre grâce à Joséphine sans parler, de sa petite enfance, de ses combats, et sans avoir de la danse et de la musique pendant tout le spectacle.
Bon, et puis il y a aussi un autre petit détail troublant qu'on n'a pas évoqué, Clarisse Kaplan, il paraît que vous êtes née le 10 avril.
Oui, c'est vrai.
Qui est le jour du tout dernier spectacle de Joséphine Baker. Comme quoi, vous voyez, il y a des signes comme ça, des clins d'œil du destin absolument incroyables. Ce n'est pas la première fois, Xavier Duringer, que vous vous penchez sur la vie d'un personnage célèbre et sur les coulisses de son existence. Je pense évidemment à votre film La Conquête, qui racontait l'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy avec Denis Podalydès dans le rôle principal. Le film date de 10 ans déjà, en 2011. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le principe même du biopic, comme on dit maintenant ?
D'abord, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec une histoire, avec un personnage. Moi, j'aime beaucoup de savoir comment les gens, enfin, quel est leur trajet. Est-ce qu'un homme peut changer sa vie ? Un homme ou une femme, est-ce qu'elle peut changer sa vie ? Et j'aime beaucoup raconter, en fait, les trajets de ces personnalités-là. Et c'est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, on était servi parce qu'il y avait un côté romanesque, des problématiques avec sa femme, des problématiques à l'intérieur de son parti. Et ça donnait quelque chose d'incroyable à raconter. On n'aurait pas jamais pu imaginer qu'un président soit quitté juste avant d'être président de la République et que sa femme n'irait pas voter pour lui au deuxième tour. Donc c'était fort. Il y avait quelque chose de très, très romanesque. Le combat de l'homme dans son intimité, mais aussi son combat politique et comment il allait pouvoir se servir de ça ou pas. Avec Joséphine...
On a aussi cette richesse-là.
on a aussi cette richesse-là et on ne peut pas raconter non plus la vie de n'importe qui. Il faut quand même qu'il y ait un fond, j'allais dire, romanesque. Avec Joséphine Baker, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on connaît forcément aujourd'hui et la résistante, celle qui adopta 12 enfants de toutes les religions, de toutes les couleurs, son combat contre le nazisme, enfin voilà. Mais il y a énormément de pans secrets de sa vie qui commencent à se révéler les uns après les autres. Ce qu'elle voulait avant tout, c'est l'unité, entre les hommes et de toutes les, j'allais dire, elle disait, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, qu'on soit noir, jaune, blanc ou rouge. Enfin voilà, il n'y a qu'une seule race, c'est la race des êtres humains. Et son premier combat, c'était d'essayer de trouver la réunification et de réunir en fait tous les êtres humains.
Et vous avez réuni tous les arts d'une certaine façon, Xavier Duringer, parce que ce spectacle, vous l'avez conçu comme un moment de cabaret avec de la danse, avec de la musique, avec des plumes, avec des paillettes, c'était une évidence.
C'est une évidence parce qu'elle a été une danseuse star de cabaret, mais aussi j'allais dire, elle a pratiquement tout fait. Elle était chanteuse, elle était meneuse de revue, elle était actrice, elle a fait du cinéma, elle a été dans les clubs. Enfin voilà, c'est un personnage complexe et en parallèle, son combat politique aux côtés, par exemple, de Martin Luther King. Et c'est vrai que c'est la seule femme à avoir pris ce jour-là la parole après Martin Luther King. Donc c'est quelqu'un qui était engagé très profondément. Et je vous dis, il y a plein de choses qui ressortent maintenant sur elle. Elle était amie avec Fidel Castro, comme elle pouvait être amie avec De Gaulle. Voilà, c'est très, très... C'est une femme qui a traversé le siècle et dans tous ses combats, aussi bien les combats visibles que les combats plus intimes et plus sombres et parfois aussi dans l'ombre.
Et ce n'est pas elle, ce n'est pas Joséphine B, donc ce n'est pas vous, Clarisse Caplan, qui ouvrez le spectacle. C'est un monsieur Loyal, en l'occurrence Thomas Armand, monsieur Loyal avec jaquette, nœud papillon et haute forme, qui ouvre ainsi le spectacle en s'adressant directement à la salle.
Certains pensent qu'après notre mort, nous nous dissolverons dans l'univers et qu'il ne restera rien du tout de nous. Ou au mieux qu'une petite lumière. D'autres pensent que nous deviendrons des étoiles qui brilleront dans le ciel. Et dans le firmament des stars, je vais vous parler ce soir d'une des étoiles des plus brillantes, des plus scintillantes de toute l'histoire du cabaret et du music hall. Elle a toujours su d'où elle venait, mais elle ne savait pas qu'elle irait si loin et si haut. Première étoile noire, si je puis dire, à briller dans le ciel, sa vie est un véritable jeu de lois universelles. Freda Joséphine MacDonald est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, Missouri, sous les signes du Gémeaux, d'une danseuse métisse noire et amérindienne d'origine apalache, et peut-être, je dis bien peut-être, d'un musicien de rue itinérant aux origines espagnoles, Eddie Carson.
Et moi, ni noire, ni blanche, ni rouge. Tout ça mélangé, ça fait du café au lait, avec plus ou moins de café l'été ou de lait l'hiver. Mes parents étaient des saltimbanques. Ils sautaient sur les bancs. Ils avaient créé ensemble une sorte de cabaret itinérant, une sorte de numéro de danse et de claquette, à ce qu'on m'a dit. C'est peut-être de là que me vient cette façon de toujours vouloir bouger mes fesses.
Ouais, et l'on vous découvre, hein, Clarisse Caplan, assise sur une chaise dans la pénombre avec ce manteau, cette toque léopard, ses lunettes. Et dès les premières répliques, hein, celles qu'on vient d'entendre, il y a ce léger accent et ce phrasé très particulier que vous conservez d'ailleurs tout au long du spectacle. Vous avez travaillé ça particulièrement, ce phrasé, cette façon de prononcer les mots?
Oui, j'ai voulu que ce soit très léger parce que je ne voulais pas totalement modifier ma voix ou ma manière de parler. Je voulais aller vers Joséphine sans être dans l'imitation ou la caricature. Du coup, voilà, j'ai voulu que ce soit entre elle et moi pour que ce soit naturel.
Et vous avez regardé beaucoup de films, de vidéos d'elle pour justement vous imprégner du personnage?
Oui, on a regardé toute la documentation possible et imaginable, tout ce qu'il y avait. On avait soif d'apprendre, puisque Xavier nous a fait ce cadeau sublime d'écrire pour nous. On a eu envie de la connaître personnellement. Donc, c'est passé effectivement par... toutes les archives possibles et imaginables.
Est-ce que vous avez conçu justement ce rôle comme un travail, vous venez d'employer le mot, un travail d'imitation ou de mimétisme? Jusqu'à quel point il vous fallait entrer en osmose avec le personnage, presque en communion, j'allais dire?
Comment dire, je crois qu'il y a certains personnages quand on vous les propose, il faut qu'il y ait une espèce d'accointance, une espèce de familiarité avec, avec ce personnage. Et j'ai ressenti ça assez rapidement avec Joséphine. Donc oui, pour moi, c'était surtout pas de limitation, mais voilà, essayer de l'honorer, donc c'est-à-dire d'être humble et de ne pas chercher à la calquer, parce que ça aurait été forcément raté, parce qu'on ne peut pas être exactement Joséphine Baker. Voilà, c'est un travail à mi-chemin entre elle et moi.
Mais vous avez un visage extrêmement plastique, extrêmement expressif, ce qui est aussi le cas d'ailleurs de Thomas Armand, notre partenaire, on va y venir dans un instant. L'art de la mimique, qui n'est pas dans ma bouche un mot péjoratif, hein, pas du tout, l'art de la mimique, l'art de la grimace, l'art de loucher, vous l'avez appris naturellement ou bien vous l'aviez, vous l'avez acquis au fil des années ?
Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Xavier a voulu écrire pour nous. Il a trouvé qu'on avait cette fantaisie en commun, cette tête grimaçante et très expressive.
Même dans la vie, quoi, pas seulement sur les scènes.
Apparemment.
Apparemment. Mais alors, juste une question de béotien, parce que moi, c'est pas ma spécialité, les grimaces. Vous avez, vous faites des échauffements particuliers, des muscles de votre visage avant d'entrer en scène. Ça demande des exercices spéciaux.
Juste avant d'entrer en scène, on essaie plutôt de se détendre parce qu'on est très, très stressé. Je pense que les grimaces viennent toutes seules avec la souffrance.
Bon, il faut dire que la vie de Joséphine Baker est vraiment très riche. Sa personnalité est tellement forte qu'on dit que c'est vraiment un personnage incroyable à incarner. Vous racontez donc l'histoire de Joséphine Baker avec votre visage, avec votre voix, avec les mots de Xavier Duringer, mais aussi avec votre corps, car il y a de nombreux passages dansés dans le spectacle. Vous êtes entré dans le personnage par le biais des mots ou par le biais du corps ?
Je dirais que c'était d'abord par le corps, grâce à Florence Lavie, notre chorégraphe. Nous, on n'était pas du tout danseurs, Thomas Armand, moi non plus.
Pas du tout. Franchement, j'ai beaucoup de mal à vous croire.
Bon, on avait fait quelques cours de danse quand on était à l'école de théâtre, mais bon, voilà, comme ça. Et là, on a eu la chance de pouvoir faire ça de manière intensive. On est partis en vacances tous les quatre, Thomas, Xavier, Florence Lavie et moi. On est partis faire des vacances ensemble, on dînait le soir et puis ensuite on répétait toute la nuit. Donc on a fait un condensé, on a pu avoir ce temps-là et cette disponibilité pour faire ça intensément.
VMDN avec Clarisse Kaplan, pardonnez-moi, qui incarne Joséphine B, alias Joséphine Baker, de la pièce écrite et mise en scène par notre autre invité, Xavier Duringer. C'est donc au Théâtre de Passy à Paris jusqu'au 2 janvier 2022. Alors vous nous expliquiez à l'instant, Clarisse Kaplan, que vous ne saviez pas danser avant d'aborder le spectacle et que vous avez fait une sorte de stage de vacances d'été avec Xavier Duringer, avec Florence Lavie, la chorégraphe du spectacle, et avec votre partenaire Thomas Armand. Concrètement, comment vous avez travaillé ? scène par scène, parce qu'en plus, il y a différents types de danse dans ce spectacle. C'est extrêmement varié.
Oui, alors nous, on a eu la chance aussi de participer aux premières lignes de l'écriture de Xavier sur cette pièce. Elle a été modifiée, ça a avancé.
Dès le début, tout le monde a été partie prenante de l'écriture.
Voilà, on a vu en tout cas la naissance du projet. On est là depuis le début, on a vu la genèse, la naissance, la grossesse, tout. Donc je ne saurais même pas vous dire dans quel ordre on a travaillé. Oui, c'était plutôt chronologique, plutôt scène par scène.
On a essayé de ramener en fait toutes les danses qui existaient à l'époque, que ce soit le cakewalk, la danse des jambes en caoutchouc, le charleston, l'indy up, enfin voilà, toutes ces danses qui courent en fait de 1915 à 1925, au moment où elle arrive avec Sidney Bechet à Paris pour le spectacle, j'allais dire commandité par les surréalistes français, voilà. Donc c'est, on essaye de raconter son histoire, une histoire que les gens ne connaissent pas. C'est où elle a grandi, ce qu'elle a vécu petite fille, ce qu'elle a vécu adolescente, comment elle a pu s'infiltrer dans des compagnies de danse, s'enfermer dans une malle pendant 24 heures avec des danseurs itinérants. Voilà, c'est vraiment une enfant de la balle. Elle a été mariée une première fois à l'âge de 13 ans, une seconde fois à l'âge de 15 ans. Elle va à New York essayer de s'infiltrer, voilà, remplaçant des danseuses qui se blessent. Et puis voilà, et puis comment, à force, voilà, c'est ce que je dis au début du spectacle, ce sont des lois universelles. On dirait qu'il y a quelque chose qui était déjà inscrit dans le ciel. Il y avait un alignement pour elle. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui vient aussi d'un milieu très du ghetto, de l'East Saint-Louis.
Oui, la Genève, c'est un peu compliqué. On a l'impression d'un personnage un peu entre Cosette et Cendrillon, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, mais bon, il faut savoir, elle est née en 1906 à East Saint-Louis. En 1917, c'est les plus grandes émeutes. J'allais dire, où vous avez les Blancs qui vont tuer des centaines d'Afro-Américains, et 8 Blancs seront tués ce jour-là. Et voilà, c'est des choses qui marquent terriblement. Hein. Je raconte aussi l'histoire de la chanson de Nina Simone, mais Strange Fruits, où en Alabama, Biloxi, dans le sud des États-Unis, on pendait les Afro-Américains aux arbres. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de très fort. On parle aussi de Rosa, qui la première a refusé de se lever dans un bus pour laisser sa place à un blanc. Donc c'est aussi toute cette histoire, elle est forgée aussi de toute cette histoire depuis le début.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
Strange Fruits et Billie Holiday dans VMDN sur RFI, avec Xavier Duringer et Clarisse Kaplan qui nous raconte Joséphine Baker dans Joséphine B à l'affiche du théâtre de Passy jusqu'au 2 janvier. Une chanson très emblématique, hein, Xavier Duranger, dont on entend quelques mesures dans le spectacle. C'est vraiment une scène très, très saisissante. Hein. Vous jouez énormément, évidemment, avec l'histoire, mais aussi avec l'ombre, la pénombre. Et c'est assez glaçant ce moment-là. C'est vraiment un moment fort du spectacle. Joséphine Baker, qui a connu, on le disait, la pauvreté, le racisme, la ségrégation, son lot quotidien dans son Missouri natal, état du sud des États-Unis. Et dans la pièce, voici comment elle le raconte à un journaliste venu l'interroger. Ça se passe dans une loge de théâtre et le spectateur comprend à quel point le succès et la richesse ont changé la vie de la petite fille qu'elle était.
Tu sais, on m'a fait des montagnes de cadeaux. On m'a offert un bracelet Burma avec du feu gros comme un œuf. On m'a offert une paire de boucles d'oreilles anciennes qui avait appartenu à une duchesse il y a 150 ans. On m'a donné des perles comme des dents. J'avais aussi des fleurs qui arrivent en un jour d'Italie, dans de la mousse et des paniers. Et aussi les petits plombs qui mangent les mouches. Et même la viande, vous savez, avec de la colle et des poils dans le cœur, vous voyez. On m'a donné 6 chaises en laque de Chine, des jouets qui marchaient à l'électricité, des bouteilles sales très chères, des vases de Hollande. Un petit éléphant en ivoire de Russie taillé par les pauvres gens du pôle, un ours, un canard, un lapin, un chat, un peluche. Des animaux vivants aussi, ma panthère Chiquita, l'amour de ma vie, et un petit singe adorable. Une paire de souliers en or, une robe qui tenait pliée dans mon petit sac à main rouge, des grosses pêches, un autre jour de grosses fraises tous les jours. J'avais aussi des fourrures, une fourrure, deux fourrures, trois fourrures, quatre fourrures, un régiment de peau de bête. Et aussi les bracelets avec les petits pierres rouges pour mes bras, mes poignets, mes jambes, je sais plus, et assez d'ailleurs. Hein. Et vous savez que je mens pas, mon ami. Quand je cours raconter que je suis rentrée dans les palaces des rois et des reines, dans les maisons de présidents, et bien plus encore. Hein. Mais en Amérique, je ne pouvais pas rentrer dans un hôtel et boire une tasse de café. Et ça, tu vois, ça m'a rendue furieuse.
Vous m'avez pas dit qu'à vos 11 ans, vous aviez assisté aux émeutes raciales les plus sanglantes qu'ont connues les États-Unis?
Oui. C'était le 2 juillet 1917. Un rumeur avait couru dans tout le quartier que... un homme noir avait violé une femme blanche. J'ai entendu des coups de feu. Des milliers de blancs avec des policiers sont arrivés tous armés en hurlant de vengeance. Je suis avec ma mère qui se met à courir. J'essaie de courir derrière elle. J'essaie de m'accrocher à sa robe. Je vois cette femme enceinte tomber derrière moi. Se faire rouer de coups de bâton. Elle crie, elle pleure, elle hurle. Les coups pleuvent sur son ventre. Je vois un homme ensanglanté tenir son œil dans sa main. Il tire sur la foule. Les hommes tombent. Mais quel est ce pays ? Ou un homme, parce qu'il est blanc, a le droit de frapper et de tuer un homme parce qu'il est noir. De les lyncher, de les pendre aux arbres. Mais c'est grâce aux pauvres comme nous qu'ils sont devenus riches et ça, ils veulent pas le voir. C'est grâce aux champs de tabac et de coton qu'ils ont capitalisé sur notre dos. C'est avec chaque goutte de notre sang rouge qu'ils ont imprimé leur billet vert.
On sent vraiment dans cette longue tirade l'ambivalence du personnage, à la fois la fougue, tout ce qu'elle a vécu de très très fort quand elle a eu le succès, et en même temps, Clarisse Kaplan, on sent aussi qu'il y a une vraie blessure à chaque fois qu'elle évoque l'Amérique. Il y a de la tristesse, mais aussi une vraie colère.
Oui, et je crois, c'est quelque chose que je peux comprendre. Je crois que certaines personnes qui ont vécu des traumas aussi intenses et aussi injustes savent dédramatiser, savent avoir de la distance parce qu'au final, ils n'en ont pas du tout. Ils ont vraiment vécu ça. Et parfois, on se dit il vaut mieux savoir être léger, savoir rigoler, savoir avoir de la joie parce que cette peine-là ne partira pas.
Alors, on sent qu'elle souffre effectivement du racisme, notamment quand elle va dans son pays, aux États-Unis, quand elle quitte l'Europe pour aller en tournée aux États-Unis, où elle est vraiment accueillie d'une façon inimaginable pour elle. On a vraiment l'impression qu'elle tombe de haut, quoi.
Ben oui, parce qu'elle a quitté son pays. Je pense qu'elle pensait peut-être en arrivant en France, comme elle a été extrêmement bien accueillie, c'était une époque hyper négrophile. Et je crois que ça a été le premier choc pour elle de se dire « Oh, mais ici, on vit beaucoup mieux qu'aux États-Unis ». Et peut-être qu'elle a cru qu'elle avait dépassé ça, que c'était terminé, puisqu'elle ne le vivait plus au quotidien en France. Alors je crois que ça a été d'autant plus choquant qu'elle a fait ses preuves, elle est devenue célèbre. Et puis au final, quand elle est revenue chez elle, elle ne valait pas plus qu'avant qu'elle ait fait tout ce parcours.
Venez avec moi à Paris.
On dit
musique au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Pareil toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli.
Josephine Baker, j'ai deux amours dans VMDN sur RFI. Avec Xavier Duringer et Clarisse Kaplan qui présentent Joséphine B au théâtre de Passy dans le 16e arrondissement de Paris. Alors on entend évidemment J'ai deux amours sur scène, mais pas exactement dans cette version-là, Xavier Duringer. Je laisse les spectateurs le découvrir. Mais venons-en à votre partenaire Clarisse Kaplan qui s'appelle donc Thomas Armand. C'est un partenaire ou c'est des partenaires? Oui, pourquoi je vous pose la question?
Oui, je vois très bien pourquoi vous posez. Je pense que dans la vie, il est aussi un petit peu schizophrène et ça se voit sur scène.
Un tout petit peu, oui, j'ai l'impression. Parce qu'il interprète vraiment, pas un, mais toute une galerie de personnages. Je ne sais pas combien de personnages, mais plus d'une dizaine, j'imagine.
Je crois 17.
Oui.
17. Ouais, 17 et puis parfois des petits personnages comme ça. Hein. Mais je crois que c'est 17 personnages. Il joue aussi bien les danseurs que les vieilles femmes, que les enfants, que des danseurs, que les partenaires, que Pépito, que Jean-Claude Brialy, que voilà, il en fait 17. C'est une sorte de Jim Carrey. Je peux pas mieux dire sur lui. Quand je l'ai découvert dans un cours d'art dramatique, il avait 2 mois de cours. Il était coiffeur jusqu'à l'âge de 28 ans. Mais c'est quelqu'un qui connaissait les rôles de tous les films, chaque réplique, parce que il faisait des petits spectacles pour faire rire ses sœurs et sa mère. Et donc, quand je l'ai vu un jour, il fait des équilibres sur les mains, il sait tout faire. Je lui ai dit, mais tu viens du sport, t'es gymnaste? Non, pas du tout. Mais t'es une formation de danseur? Non, pas du tout. Et je lui ai dit, allez, viens avec nous, je t'embarque dans cette aventure. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très précis, de extrêmement talentueux. Moi, il me fait penser à Jim Carrey, mais parfois à Jack Lemmon dans certains Lem Show. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil dans le. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça.
On sent une vraie complicité. Hein. Ça se sent hein, quand on est dans la salle avec vous, Clarisse Kaplan.
Ah oui, j'adore jouer avec lui déjà pour son talent. Et puis. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut. On se soutient énormément. Nous, on a souvent très très peur avant de monter sur scène. Et parfois, je me dis ben voilà, je joue pour mon pote quoi. Et je sais qu'il va me tirer vers le haut. J'ai confiance en lui. C'est tellement agréable de jouer avec quelqu'un de talentueux comme ça.
On peut dire ça parce que cette peur aussi, parce que dans le spectacle, il y a au moins 10 ou 12 tableaux entièrement dansés qui sont des danses parfois qui dure 2 minutes 30 à 3 minutes. Et quand on est, même si notre chorégraphe a réinventé les danses et raconte la vie aussi de Joséphine à travers ces danses-là, parce qu'on n'a pas calqué en fait les choses, mais on a réinventé en fait toutes les chorégraphies. Ils prennent sur un plateau qui fait 6 mètres, 7 mètres d'ouverture et 3,50 mètres de
oui,
profondeur.
C'est pas très grand, hein.
Il danse à certains moments à toute allure avec des portées à 2,50 m, 2,80 m de hauteur. Ils font la planche Dirty Dancing en direct. Donc c'est vrai que...
À 2 mètres du premier rang.
À 2 mètres du premier rang, vraiment. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils prennent énormément de risques. Moi qui adore le sport, ils mouillent le maillot. Quoi. Voilà,
Il y a un mot que Xavier Duringer vient d'employer, c'est le mot précision. Clarisse Kaplan, c'est un mot important dans votre façon que vous avez eu de travailler, de vous préparer à la scène avec votre partenaire, à la fois pour la dimension chorégraphique et pour le texte ?
Oui, parce que plus on travaille, plus on peut rentrer justement dans cette précision. Nous, tous les soirs, on joue. Notre metteur en scène est là tous les soirs à nous regarder et à nous faire des notes à la sortie.
Ah oui.
Donc tous les jours, on sait là, on doit se reprendre. On est toujours un petit peu en auto-évaluation et on essaie justement de rentrer dans ce travail de précision et d'orfèvrerie, parce qu'on chérit c'est du spectacle vivant, donc c'est jamais deux fois la même chose exactement. On a toujours de quoi s'améliorer.
Alors Thomas Armand prend un accessoire, il change de costume, il prend notre accent, il prend une autre voix, son visage change vraiment en un clin d'œil, hein, et donc il est tour à tour narrateur, monsieur loyal, impresario, époux, boyfriend. Il fait aussi des personnages féminins, figurez-vous, une patronne revêche, ou encore Caroline Dudley Regan, la mondaine qui va convaincre Joséphine Baker de traverser l'Atlantique pour tenter sa chance en France.
Venez avec moi à Paris, je monte une troupe.
À Paris?
Je vous donnerai $150 par semaine.
J'ai accepté d'abord, et puis j'ai refusé.
Bon. Je vous donnerai $200.
Alors je vais réfléchir.
Et pour $250, vous arrêtez de réfléchir.
Alors j'ai accepté. Et en un seul jour, toute ma vie a basculé. J'ai même pas eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit. J'avais aucune attache. J'étais libre. Mais soudain, la peur a commencé à me serrer la tête, le cœur, le ventre, avec une force à faire tout craquer. Où j'allais atterrir? Je parlais même pas un mot de français. Et comment je fais pour revenir? Allais-je un jour revoir ma mère, mon frère, mes sœurs? J'ai fait confiance à cette femme et j'ai pris le bateau.
En véritable impresario, j'ai quand même réussi à convaincre 12 musiciens noirs de Harlem, dont un certain Sidney Bechet.
Si, vous savez, génie, là.
Et 8 choristes, soit 20 personnes en tout, de partir pour Paris, ville réputée pour sa liberté totale.
C'est Fernand Léger.
Je suis que j'ai le premier de créer au Théâtre des Champs-Élysées une revue entièrement jouée par des noirs.
Oui, ce sera évidemment la fameuse Revue Nègre à partir de 1925. Un comédien multirôle, Xavier Duringer, c'est une question d'économie ou c'est un vrai choix de mise en scène?
Non, c'est un vrai choix de mise en scène. Et puis c'est aussi, aujourd'hui, il faut avouer aussi les choses, c'est très difficile le théâtre. Depuis le Covid et tout, les théâtres, j'allais dire, se vident. On ne peut pas avoir des productions aussi fortes qu'on pouvait les avoir avant. Mais là, c'est un choix artistique. C'est quand vous avez la chance de rencontrer... un acteur de ce talent-là, c'est justement, on est dans la théâtralité. Quand vous parliez tout à l'heure de cabaret ou de music-hall, on a conscience en fait de cette théâtralité. Ça fait penser parfois, on fait tous les changements pratiquement de costume à vue. C'est un peu comme le théâtre polonais à l'époque ou russe où on pouvait changer là-dessus. Puis ça fait penser.
Ils sont intégrés à la mise en scène d'ailleurs, les changements
de costume.
Bien
sûr, complètement.
Mais il y a une habilleuse qui rentre, par exemple.
Le cabaret un peu brechtien des années 20-30. Il faut savoir aussi que Joséphine aura raconte cette époque, c'était le cinéma muet, c'était aussi des danses qui étaient des danses aussi qui venaient des esclaves, des Afro-Américains qui récupéraient les habits déchirés des maîtres et qui parodiaient les maîtres. Donc on raconte en fait la jeunesse, pourquoi elle faisait des grimaces, parce que c'était véritablement des battles à cette époque-là et qu'on était beaucoup plus expressif avec les corps et avec les visages.
On n'est pas du tout, Xavier Duringer, dans une progression chronologique. Pourquoi vous avez écarté cette idée-là ?
Parce qu'à un moment, quand on est trop dans la chronologie, j'allais dire, on s'attend toujours à ce qu'il va y avoir après. Et c'est pour casser cette chose-là. On parle, c'est une vieille femme qui parle. Et on commence avec la petite enfance. Après, on se retrouve avec elle à 50 ans lors d'un interview. Et avec cette interview, on repasse en fait sur sa petite jeunesse, de comment elle a commencé jusqu'au moment.
Et au passage, on apprend énormément de choses, mais
petites touches. C'est pas la peine de développer des choses, voilà, on raconte en fait les grandes lignes, mais surtout le pourquoi elle est devenue cette icône-là et qu'est-ce qu'elle a traversé dans sa vie. Et en fait, sa carrière, c'est une forme de résilience, en fait, et de résumé de sa petite enfance qu'elle va remettre sur scène tous les jours. Parce que c'est vrai qu'elle était afro-américaine, mais si on peut parler, c'est terrible de parler de ça, de pourcentage, mais elle était déjà 50% afro-américaine et indienne. Et son père était 100% espagnol, était un danseur itinérant. Donc elle portait déjà sur son visage la faute qu'avait pu faire sa mère en 1905. Vous comprenez? Donc c'est vraiment cette chose-là où elle est en fait, elle est blanche, elle est noire, elle est rouge, elle est en fait de toutes les couleurs. Et en fait, c'est ça, elle se bat pour une seule race, c'est la race humaine avant tout.
Oui, la race humaine avant tout. Et finalement, sa seule couleur, Clarisse Kaplan, c'est la couleur de la liberté, quoi, la liberté sous toutes ses formes.
Oui, la couleur de l'amour aussi, parce qu'avec... voilà, moi, j'admire ça chez Joséphine, c'est qu'elle a un très grand cœur et c'est ça qui reste. Et on l'a vu dans tous les domaines de sa vie, sa grande générosité.
12 enfants adoptés, hein, quand même, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Mais là aussi, vous y passez très, très vite, mais vous le signalez quand même, hein, comme quand vous évoquez ces actes de résistance, d'ailleurs. Donc la résistance à l'occupant nazi, on peut la mettre, pour vous, justement, en filigrane de son engagement contre la ségrégation et le racisme?
Oui, non, c'est surtout concentré sur son parcours, comment elle s'en est sortie de rien. Mais oui, c'est sûr que c'est important pour nous d'évoquer.
Et sur le lien entre son art
d'évoquer...
et son engagement. Quoi.
Exactement.
On est toujours dans ce balancement.
Oui, et puis il a fallu faire des choix. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de dévoiler la partie la moins connue de son existence, c'est-à-dire son parcours de Saint-Louis jusqu'à Paris, qu'on ne connaît pas. Et il fallait aussi trouver... l'originalité, les origines même de sa danse qu'elle va ramener à Paris, d'où viennent ces fondamentaux-là de danse. C'est ce parcours-là qui m'intéresse. Après, aujourd'hui, par exemple, nous, quand j'ai écrit le spectacle, c'était bien sûr 3 ans avant sa panthéonisation. Personne ne savait qu'elle allait être panthéonisée. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un alignement des planètes extraordinaires aujourd'hui autour de ce spectacle.
Bye.
Et elle sait aussi chanter, hein, Clarisse Kaplan. Elle sait pas seulement danser et jouer la comédie, elle sait aussi chanter sur la scène du théâtre de Passy à Paris, dans cette pièce Joséphine B de Xavier Duringer. Alors dans cette scène-là, vous êtes avec ces ailes d'ange, cette coiffe, toutes ces plumes blanches. Clarisse Kaplan, c'est paillettes autour de la taille, ce collier qui laisse voir vos seins. Alors j'ai beaucoup entendu dans la salle quand même à ce moment-là, et surtout à la sortie. Ah oui, quand même, elle joue topless, ça doit pas être facile pour elle. Alors je vous pose la question, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu à la sortie. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut franchir quelque chose pour pouvoir se permettre de faire ça?
Bon, pour moi, c'est pas difficile, non, parce que déjà, c'est Joséphine Baker, et je pense que moi-même, je n'ai pas forcément de... J'ai pas trop de pudeur avec, surtout dans mon métier. En fait, pour moi, c'est pas un problème.
Ça fait
de...
partie du rôle.
Oui. Je me suis même pas posé la question d'une moindre gêne parce que c'était tellement juste et je vois pas pourquoi on jouerait Joséphine Baker en cachant sa poitrine alors que c'est son geste fondamental.
Voilà, c'est ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque l'érotico-colonialisme. Alors je sais pas si c'est un terme historique et scientifique, Xavier Duringer, mais on est en permanence justement dans cette ironie-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a ces paroles qui sont à la fois très, on va dire, très louangeuses pour Paris, pour la France, pour le monde occidentale d'une façon générale, et puis justement cet engagement contre les clichés exotiques et le colonialisme dont elle se sert en même temps, quoi. C'est quand même assez schizophrène.
Oui, c'est un jeu double, mais vous savez, ce jeu d'avoir cette conscience de ce qu'on dégage en tant qu'Afro-Américain, ça vient déjà des États-Unis. C'est vraiment toutes les danses sont faites pour remettre en jeu en fait des choses dans la relation maître-esclave et les mimiques sur le visage aussi. Faut savoir que c'est véritablement un jeu et des danses très expressives. Maintenant, cette négrophilie, il faut pas oublier les soldats sénégalais en 14-18 où ça va être des rencontres terrible, après terriblement importante pour tous les surréalistes, pour les peintres, les écrivains, qui dans les années 20, il va y avoir aussi ce culte du corps, enfin de cet exotisme poussé. D'ailleurs, c'est sûr que ça va créer un big scandale à l'époque, puisque là, les gens sortent en criant au scandale, et puis en même temps, on va l'aimer comme la déesse qui hanta les nuits de Baudelaire. Enfin voilà, il y a cette chose comme ça. Mais c'est surtout, elle sait jouer en fait avec tous les symboles, j'allais dire de l'art nègre. Ça s'appelle la revue nègre, hein, déjà.
Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. De nos jours, ce serait complètement inimaginable. Évidemment.
Au début, quand le spectacle américain arrive à Paris, j'allais dire les producteurs parisiens le trouvent trop sage pour Paris. Ils veulent pas juste de la danse et un simili Charleston, mais ils veulent vraiment quelque chose qui soit subversif. Mais l'aspect aujourd'hui encore du théâtre, c'est ça, est-ce qu'on fait juste un théâtre de divertissement ou est-ce qu'on fait un théâtre subversif? La question, elle se pose encore aujourd'hui dans l'art en général.
Et comment vous avez répondu à cette question?
Eh bien, en étant, j'allais dire, non pas le cul entre deux chaises, mais ce qui était fabuleux avec Joséphine, c'est qu'on peut être à la fois dans le divertissement, c'est-à-dire dans la musique, dans l'image, dans la scénographie d'Éric Duringer, de mon frère, parce qu'il y a une scénographie quand même très, très étonnante, les lumières d'Orazio Trotta, d'être dans du divertissement, et en même temps en posant des vraies questions, sur la ségrégation, sur le féminisme, sur Joséphine Baker, je crois qu'elle s'est convertie au judaïsme en 1937. Donc voilà, on raconte en fait des choses, c'est-à-dire son combat politique. Ça fait que à l'intérieur du spectacle, on peut avoir des choses subversives parfois par les propos, mais c'est pas subversif, c'est juste de raconter l'histoire des Afro-Américains. Et puis voilà, et puis en même temps, cette nudité, ce rapport à la nudité, avec en même temps beaucoup de pudeur, on a enlevé toute forme de vulgarité puisque Joséphine Baker était tout sauf vulgaire.
Merci beaucoup à tous les deux, Clarisse Kaplan et Xavier Duringer. Joséphine B, avec également, donc je le répète, un formidable Thomas Armand. C'est sur la scène du théâtre de Passy à Paris jusqu'au 2 janvier. Avant de se quitter, direction le Brésil à présent, la ville de Rio de Janeiro, où la compagnie de danse de Lia Rodrigues prépare son spectacle intitulé Encantado, Enchanté, un spectacle qui sera présenté au Théâtre de Chaillot à Paris du 1er au 8 décembre dans le cadre du Festival d'Automne. Notre correspondante Sarah Cozzolino a rencontré la chorégraphe et ses danseurs en plein processus de création dans la favela de Maré.
C'est dans un grand hangar au cœur du complexe de favela de Maré que la compagnie de Lia Rodrigues prépare son prochain spectacle. Les danseurs partagent l'espace avec l'ONG Regis da Maré, qui s'en sert aussi de centre de distribution de paniers alimentaires pendant la pandémie. Travailler dans ce contexte, au milieu des palettes où s'amoncellent les paquets de riz et haricots, affecte forcément les danseurs, selon Leonardo Nunes. Il travaille avec la chorégraphe depuis 17 ans.
Évidemment, cela s'exprime à travers nos corps, parce que nous vivons cette pandémie folle et nous travaillons dans un endroit où l'on distribue des aliments, où les gens vont et viennent. Mais Encantado ne parle pas de ça, cela parle des êtres vivants. Et ces êtres vivants peuvent aller où ils veulent.
Parmi les 11 danseurs, 3 habitent dans le complexe de favelas de Maré qui comprend 17 favelas et près de 140 000 habitants. Quand André da Silva a commencé à fréquenter l'école de danse, sa seule référence était le funk.
C'est quand je suis entré dans cet espace que j'ai pris la dimension de combien l'art et la danse sont amples. Ça m'a montré d'autres chemins. Je dis que cet espace m'a formé, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que personne. Ça m'a donné un or. Cet endroit a toujours été un refuge pour moi. Et quand on monte sur scène, on oublie ce qui se passe à l'extérieur.
Lia Rodrigues a dédié sa vie à la danse. Elle a dansé en France, notamment avec la compagnie de Maggie Marin, et a fondé sa compagnie de danse à Rio il y a 30 ans. La chorégraphe a commencé à travailler dans la favela en 2003. À l'époque, elle était une des seules artistes de l'extérieur à venir s'installer dans ce territoire. Elle tient toujours à souligner qu'elle parle depuis une position privilégiée.
Je suis une femme blanche, classe moyenne, qui vit dans un pays des plus inégaux au monde, un pays très raciste, qui ne respecte pas la différence. Qu'est-ce que je fais avec mon privilège? Ça, c'est très une réflexion qui m'accompagne. Quelles actions pratiques je peux m'engager pour que ces privilèges puissent se dissoudre un peu, même s'il ne va pas dissoudre jamais.
Construire un lieu pour démocratiser les arts et la danse était une priorité pour Lia Rodrigues.
J'ai pensé comment un projet d'art contemporain peut dialoguer avec un projet social. C'est rapprocher des gens qui n'ont pas l'habitude de voir et d'être spectateur et de dialoguer avec l'art contemporain.
Aujourd'hui, les danseurs de sa compagnie reflètent le Brésil. Ils sont noirs, blancs, leurs corps sont tous différents et tous feront partie de la magie que sera le spectacle Encantado. Valentina Fittipaldi fait partie des êtres enchantés qui seront sur scène.
On parle beaucoup d'êtres vivants, d'arrêter de mettre l'homme au centre de tout, de système, de relations, de coopération aussi. Il est beaucoup question de couleur et de créer des êtres différents, à moitié humains, à moitié non humains.
À l'occasion de son portrait lors du Festival d'automne, Lia Rodrigues invite 10 artistes brésiliens qui interrogent les stéréotypes sur les corps noirs sur scène.
Reportage de Sarah Cozzolino, Encantado, donc à partir de demain au Théâtre National de Chaillot à Paris, et ensuite du 10 au 14 décembre au 104. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain avec Catherine Marnès qui présente au Théâtre du Rond-Point A Bright Room Called Day de Tony Kushner. Et vous m'en direz des nouvelles. RFI, la sélection.